Le journal de l'écho signé Anne-Laure Chouin. Bonjour Anne-Laure.
Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous. Ce matin, dans le décryptage écho, on s'intéresse au plan lancé en 2020 pour sauver la forêt française. Un plan d'investissement censé permettre la plantation de 1 milliard d'arbres d'ici 2030, avait promis à l'époque Emmanuel Macron. Car la forêt française est mal en point. Certes, la surface boisée dans l'Hexagone, 30% du territoire environ, augmente régulièrement. Mais face au réchauffement climatique, l'état sanitaire de nos forêts se dégrade, entraînant des périssements, risques accrus d'incendies et attaques d'insectes. Alors, où en est-on du plan forestier ? Répond-il aux enjeux économiques et écologiques de notre forêt ? Décryptage d'Annabelle Grelier.
En 2020, le plan France Relance débloquait 200 millions d'euros, 145 millions d'euros en 2023 avec le plan France 2030. Pour reconstituer les forêts publiques comme privées, le gouvernement prévoit une nouvelle enveloppe de 150 millions d'euros par an à travers le projet de planter 1 milliard d'arbres en 10 ans. Depuis 4 ans, l'ONF plante à un rythme effréné, malheureusement sans garantie de succès, déplore Yannick Baraban. Il est forestier ONF et militant au syndicat SNUPFEN ONF Solidaire.
On les voit des plans, moi je travaille en partie sur le suivi des jeunes plans une fois qu'ils sont mis en terre. Et j'ai des constats d'échec assez impressionnants à plusieurs années ensuite, qui nous obligent à faire ce qu'on appelle des regarnis, c'est-à-dire replanter au même endroit. Tant qu'il y a un échec, on replante. Ça coûte de l'argent, mais en fait, ça ne fonctionne pas. C'est pas du tout une adaptation au changement climatique, c'est une adaptation à l'économie des grands industriels du bois. Il faut laisser la capacité aux forestiers et pas aux lobbies économiques de choisir. Le forestier, maintenant, on le contraint à faire des grandes campagnes de déboisement pour ensuite replanter. Alors bon, il y a de l'argent qui tombe. Ça ne fait marcher qu'un système. Le système des pépinières, le système des subventions, on fonctionne à l'envers, là. Et puis, c'est surtout de stopper ces grandes coupes rases ou ces grosses ouvertures, parce qu'on sait que c'est souvent préjudiciable à la forêt.
Dans son dernier rapport, la Cour des comptes note que le dispositif d'aide a surtout bénéficié à la forêt privée, privilégiant les peuplements à faible valeur économique non dépérie. Elle préconise à l'avenir une meilleure orientation des crédits en ciblant uniquement les peuplements dépéris ou inadaptés.
Car nos connaissances avancent en matière de sylviculture et pour encadrer les pratiques, une proposition de loi de gestion forestière attend l'arbitrage du Premier ministre. Elle pourrait arriver devant l'Assemblée nationale d'ici l'été, Annabelle.
Elle est portée par la députée Renaissance de Gironde, Sophie Panonacle. Elle est soutenue par une soixantaine de députés de la majorité présidentielle, mais pas par les professionnels de la filière et notamment les coopératives forestières. Et pour cause, puisqu'elle vise, entre autres, à encadrer les coupes rases.
C'est-à-dire qu'entre 2 hectares et 20 hectares, quand il n'y a pas de document de gestion durable, on ne peut plus faire de coupes rases. Et aujourd'hui, on est au niveau des propriétaires forestiers, 70% d'entre eux ne disposent pas d'un document de gestion durable, ce qui est énorme. Et les arguments qui me renvoient, ceux qui se dressent un peu contre cette proposition de loi, c'est le surcoût financier dans ce genre de production. C'est-à-dire que passer dans la forêt, tailler un arbre par un arbre, évidemment, ça prend plus de temps. C'est sans doute un peu plus compliqué que couper d'un seul tenant, ce que j'entends. Mais les forestiers qui utilisent cette méthode me disent qu'au lieu d'avoir un rendement une fois de temps en temps quand ils font une grande coupe, eh bien, ils ont un rendement régulier, de coupe régulière. Et puis, dans tous les cas, plus on va couper de manière uniforme une seule parcelle, tous les arbres en même temps, plus on va sécher les sols. On est face à un changement climatique qui s'accélère. Si on ne prend pas aujourd'hui les bonnes mesures qui préservent cette forêt, ces espaces, eh bien, dans 10 ans, on va le payer.
Cette proposition de loi vise aussi l'interdiction du dessouchage ou encore une incitation fiscale pour les propriétaires qui s'engagent à exploiter leur forêt en couvert continu. À noter que les coupes rases sont bannies en Suisse et limitées en Pologne, en Autriche et en Allemagne.
Annabelle Grelier, on retrouve votre chronique sur ce sujet demain l'écho dans le journal de 18h. C'est l'indicateur économique le plus attendu de la semaine et on sait qu'il ne devrait pas être très bon. L'INSEE dévoile demain, mardi, l'ampleur du déficit public de la France en 2023, initialement prévu à 4,9% du PIB, il sera significativement plus élevé, a admis le gouvernement. Selon les économistes, chaque 0,1 point de PIB de déficit supplémentaire en 2023 représente environ 3 milliards d'euros manquants dans les caisses de l'État. Il faut sauver le soldat Atos, c'est ce que propose le premier actionnaire du groupe informatique français, lourdement endetté. Atos, que les derniers potentiels racheteurs, le groupe Airbus et le milliardaire Kretinsky, ont finalement renoncé à reprendre. Ce week-end, donc, David Layani, le patron de OnePoint, premier actionnaire d'Atos, a dévoilé son plan pour tenter un sauvetage sans cession. Nommé le mois dernier au conseil d'administration du groupe, il estime qu'il faut préserver l'intégrité des actifs, soit une rupture avec la stratégie menée abonnés depuis 2 ans. Atos, on le rappelle, possède plusieurs super calculateurs, notamment, ce qui rend son activité éminemment stratégique. Un mot d'économie chinoise, enfin, elle est atone. Une crise sévère du logement et un très fort chômage des jeunes paralysent toujours la croissance. Hier, le Fonds monétaire international a appelé le pays à un ensemble complet de réformes favorables au marché. Jusqu'ici, les décideurs chinois avaient plutôt opté pour une relance gouvernementale massive, mais selon la directrice du FMI, Pékin ne peut se passer de réformes favorables au marché, principalement pour réduire la quantité de logements inachevés, redonner du pouvoir d'achat aux ménages et en favorisant l'équité entre entreprises privées et publiques. Ce dernier point est réclamé depuis longtemps par les investisseurs étrangers qui ont tendance à bouder la Chine.